VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par les relations États-Unis-Afrique. Les États-Unis vont réduire le nombre de leurs militaires déployés sur le continent africain et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par leurs concurrents russes et chinois. C'est ce qu'a déclaré le Pentagone jeudi. Actuellement, près de 7200 soldats américains se trouvent dans des dizaines de pays africains, notamment la Somalie, le Nigeria et la Libye. La porte-parole du Pentagone, Candy Stretch, a indiqué que ce nombre serait réduit d'environ 10% au cours des prochaines années, sans préciser quels pays africains sont concernés. Toujours concernant la présence des militaires américains sur le continent africain, deux soldats américains des forces spéciales, les Navy SEALs et deux marines, ont été inculpés du meurtre d'un béret vert en Afrique. Le sergent-chef Logan Melgar a été étranglé dans sa chambre alors qu'il était en mission au Mali. Abdourahmane Dia.
Les quatre soldats sont mis en cause dans ce meurtre survenu en juin 2017 à Bamako, où les deux Navy SEALs partageaient une chambre avec la victime, Logan Melgar, 34 ans. Et depuis, la justice militaire menait son enquête sur les circonstances de cette mort. En plus du meurtre, les autres charges pesant contre eux sont complot, entrave à la justice, bizutage et cambriolage. Jusqu'à présent, personne n'avait été inculpé pour le décès du sergent-chef Melgar, même si un médecin légiste avait conclu à un homicide par asphyxie ou étranglement. Un porte-parole de l'unité d'élite de l'armée américaine a déclaré que cet incident ne reflète pas le comportement général des troupes déployées à travers le monde. Les soldats américains étaient au Mali dans le cadre d'une mission avec l'armée malienne pour combattre les djihadistes qui opèrent sur une bonne partie du pays.
République démocratique du Congo, de violents combats continuent ce vendredi dans la région de Beni, dans l'est du pays, où 8 casques bleus ont perdu la vie dans le cadre d'une opération avec l'armée congolaise menée depuis le début de la semaine contre les rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées. C'est ce qu'affirme un porte-parole militaire. Les combats continuent à Mayangose, où nous continuons à pilonner les positions des ADF, un groupe de rebelles musulmans de l'Ouganda voisin, a déclaré à l'AFP le capitaine Mac Azukai, porte-parole de l'armée congolaise dans la région de Beni, province du Nord Kivu. Mayangose est un quartier périphérique de Beni, ville d'environ 300 000 habitants. Et toujours concernant la RDC, les 5 leaders de l'opposition restés dans la coalition Lamuka, le Réveil en Lingala et Swahili, ont réitéré leur soutien à Martin Fayulu, leur candidat commun. 4 d'entre eux, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et Martin Fayulu, ont tenu hier à Bruxelles, en Belgique, une première réunion après la volte-face de leurs collègues d'opposition Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui ont quitté la coalition. Freddy Matungulu y a participé par vidéoconférence depuis Kinshasa où il est rentré. Eddy Sango a joint Freddy Matungulu.
Nous avons eu évidemment des démêlés depuis lundi. Notre espoir, c'est de voir le groupe de 7 se reconstituer et le plus rapidement possible.
Vous semblez souffler le froid et le chaud dans votre communiqué en même temps que vous appelez le peuple à s'élever, à se battre contre ces régimes et en même temps vous voulez aller aux élections. Qu'est-ce que vous voulez clairement?
Une élection dont les résultats reflèteraient véritablement et la volonté et le choix de la population. Et aujourd'hui, nous sommes d'avis que cet objectif ne peut pas être atteint si l'élection est organisée avec cette machine à tricher. Et c'est pour cela que nous voulons et nous allons continuer à le demander, comme on le fait depuis plusieurs mois maintenant, que l'élection puisse se faire, mais sans la machine à voter. Absolument sans la machine à voter.
Mais il ne reste plus qu'une semaine avant le début de la campagne électorale. Vous pensez que les choses peuvent être changées?
Mais imprimer des bulletins de vote, c'est un exercice, si on a la volonté, qui peut se faire relativement rapidement. Prenez le cas de l'élection de novembre 2011. Mais les bulletins de vote avaient été imprimés pratiquement 30 ou 45 jours avant la date de l'élection. Ça, c'est des faits qu'on peut vérifier. Et je ne parle même pas des capacités locales, notamment au niveau de l'hôtel de monnaie, de la Banque centrale. On doit pouvoir être à mesure de faire ce travail et permettre à la population congolaise d'aller à l'élection le 23 décembre sans machine à voter. Ça, c'est encore techniquement faisable, ça.
Êtes-vous êtes-vous prêt à descendre sur le terrain, à battre campagne pour Martin Fayoulou et à Kontoubié parce que vous réitérez votre soutien?
Lorsque vous mettez en place une candidature commune, ça signifie à un moment donné que vous avez mutualisé les moyens à votre disposition, votre temps, les finances, votre capacité de mobilisation sur l'ensemble du territoire national. Vous mutualisez tout ça pour pouvoir obtenir que le candidat que vous avez désigné comme étant votre représentant gagne l'élection avec vous.
Par où commencez-vous vos actions?
Les autres sont nous sommes en train de finaliser la mise en place de l'équipe de campagne et la semaine prochaine, Martin Fayoulou revient au pays et nous espérons que dans la foulée, parce que nous avons également annoncé le retour du sénateur Bemba, dans la foulée, il pourra revenir aussi rapidement avec notre autre membre de la coalition qui est le Premier ministre Mouzito. À partir de la semaine prochaine, nous allons continuer à avoir et même à accélérer les réunions que nous avons au niveau de l'équipe de cette coalition Lamouka.
Freddy Matungulu, président du parti Congo Nabisso et un des leaders de la coalition Lamouka.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République centrafricaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un mois le mandat de la MINUSCA, la mission onusienne en RCA. Le texte soumis par la France a pointé du doigt les récentes tentatives russes de négocier des accords de paix en Centrafrique, bafouant l'initiative de l'Union africaine qui, selon Paris, est le seul cadre possible pour parvenir à une solution dans le pays. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Irénée Hermanoumbo.
Nous aidons activement la Centrafrique en ayant le soutien du peuple et nous aimerions que nos efforts soient dûment mentionnés dans le texte français, a réclamé devant le Conseil l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU, Dimitri Polianski. Moscou estime que Paris devrait laisser de côté ses intérêts nationaux paroissiaux et reconnaître les efforts russes en vue de la paix en Centrafrique. La Russie a engagé une médiation entre groupes armés parallèles, sinon concurrentes de celle de l'Union africaine, avec une réunion fin août à Khartoum. Elle a également formé des centaines de militaires et insiste pour que la MINUSCA, la mission onusienne de maintien de la paix dans le pays, soutienne ses efforts selon des diplomates. Mais des diplomates français et certains responsables de l'ONU ont déploré l'initiative russe, estimant qu'elle complique les efforts diplomatiques tout en envoyant des messages contrastés aux différentes parties.
Élection à Madagascar maintenant, sauf coup de théâtre, un second tour de scrutin devra départager deux anciens chefs d'État dans la course à la présidence. C'est ce qui ressort des résultats partiels publiés jeudi avec de vives critiques visant la Commission électorale nationale. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Après recensement de 84% des bureaux de vote, André Radzuel obtient 39,61% des suffrages et Marc Ravalomanana 35,15%. Le président sortant, Errajonar Mampian, est relégué loin derrière en troisième position avec 8,31% des voix. Pour l'emporter dès le premier tour, un candidat doit obtenir au moins 50% des suffrages. Le second tour, donné comme inévitable maintenant, est prévu le 19 décembre prochain, à moins que l'un d'entre eux ou les deux ne porte plainte devant la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire du pays. Car depuis le premier tour du scrutin le 7 novembre dernier, qui s'est déroulé dans le calme, les candidats ont pratiquement unanimement critiqué le travail de la commission électorale et les résultats qu'elle publie au compte-gouttes. Hier encore, des députés et sénateurs du parti d'André Radzuel, le MAPAR, ont soulevé des anomalies. Du côté de Marc Ravalomanana, on dénonce la circulation d'argent pour la CENI, la radio et télévision nationale, en vue de modifier les résultats.
En Ouganda, les tribunaux ont commencé à juger des centaines d'affaires de violences sexuelles restées au point mort, dont beaucoup de viols d'enfants. Et ce, afin de désengorger la justice et répondre aux doléances des victimes qui attendent depuis trop longtemps. Les juges de 13 tribunaux, dans civil, ont pour objectif de juger en un mois 700 affaires de violences sexuelles, des crimes qui représentent plus de 60% des délit passible de la peine capitale en Ouganda, selon Ganenia Paul Wolimbwa, juge de la Haute Cour, qui coordonne cette initiative. Et pour terminer, au Zimbabwe, au moins 42 passagers de bus sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud du pays, selon la police. Ces morts sont à déplorer après l'explosion, pour une raison encore inconnue, d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.